Bienvenue dans Soutien spirituel, un livre audio qui accompagne celui qui chemine dans la spiritualité et qui aide à méditer sur la parole de Dieu. La foi et la raison. Deuxième partie. Quand la raison est à bout de souffle, la foi, elle, continue son chemin.
Cherchez la vérité.
Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, 7.
Dans les évangiles, il y existe un passage qui met en exergue une préoccupation qui se produit encore de nos jours. C'est la manière d'adorer Dieu. Quelle serait la meilleure manière? Qui dit vrai? Quelle serait la meilleure religion? Quel peuple pratique le mieux? Le passage se situe lorsque Jésus rencontre la Samaritaine.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là, les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 19 à 24.
Donc, pour le Père, ce n'est pas une question de religion ou de lieu. La religion n'est pas la spiritualité. La religion est un ensemble de croyances et de pratiques culturelles d'un peuple ou d'une communauté. La spiritualité est ce qui relève de l'esprit. Mais, le constat est que la plupart des personnes se fixent sur la religion. Or, il est écrit que le Père, qui est esprit, recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité est là. Nous la vivons tous les jours. Seulement, nous avons souvent préféré vivre dans le mensonge et l'illusion. Nous préférons vivre ce qui plaît à notre ego, nous éloigner de la vérité et ainsi de nous égarer. Donc à présent, je fais l'effort de revenir à la réalité. Regarder la vérité en face, la chercher, la vivre, et ensuite la partager.
Admettre la vérité.
Ce qui cause généralement problème chez nous, êtres humains, c'est le fait de ne pas vouloir accepter la vérité. Car, accepter la vérité n'est pas donné. Ça demande une certaine prédisposition et un minimum d'humilité. La vérité peut heurter. Elle peut faire mal. Elle tue les stéréotypes. Elle bouscule les a priorismes. Elle ouvre les yeux de l'aveugle. Elle présente les choses telles qu'elles sont, sans la moindre déformation. Belle ou moche. Celui qui porte la vérité en lui et la diffuse, n'est pas forcément l'ami de ce monde. Les récits et les préceptes qui se trouvent dans les Saintes Écritures, qui datent depuis plusieurs millénaires, restent encore d'actualité parce qu'ils sont vrais. La parole de Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas évolué. Nous la vivons encore aujourd'hui, et en faisons nous-mêmes l'expérience. L'homme a souvent pensé que la parole de Dieu doit s'adapter à lui, à sa condition, à son époque. Pour satisfaire son ego. Hélas, c'est plutôt l'homme qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Elle est une. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Aussi, admettre la vérité, c'est entrer peu à peu dans la vraie vie. La vie réelle et éternelle que Dieu me propose et me promet, tant que je marche à ses côtés.
Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais, de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Proverbe 3, 5 à 6.
Croire en moi.
Il y en a qui, avant même de se lancer dans la bataille, sont déjà vaincus. Pourquoi a-t-on l'impression que les peuples des pays pauvres, dits aussi du tiers-monde, ont tendance à plus croire en Dieu, à la destinée qu'en eux-mêmes? Ils sont plus ancrés dans la religion. Et pourtant, ce sont les Occidentaux qui ont apporté la religion. Ils croient plus aux autres qu'en eux. La religion n'est-elle pas une anesthésie de ces peuples? Une illusion portée à leur destinée?
Karl Marx aurait affirmé, la religion est l'opium du peuple. Ceux qui le pensent donneront sans doute comme raison que c'est un moyen d'anesthésier le peuple afin que les plus érudits profitent encore sans que ce peuple ne rouspète. Quoique, si cela était réellement le cas, pourquoi la religion existerait-elle aussi dans des milieux riches et aisés même de nos jours? Lorsque nous étudions l'histoire de l'Occident, l'Europe en particulier, qui sont aujourd'hui de grandes puissances, riches, industrialisées, nous voyons que ces peuples, dès le Moyen Âge, ont été assujettis par des monarchies et l'aristocratie pendant de nombreux siècles, qui fut l'âge d'or de la religion. 477 à 1491. Il a fallu à un moment donné un réveil collectif des peuples qui ont décidé de ne plus se soumettre à ces autorités aux comportements abjects. Les révolutions sont nées et les changements ont eu lieu. Ce n'est pas pour autant que la religion a été éradiquée ou bannie. Au contraire, la religion a gardé sa place dans la société, mais a été dissociée de la vie politique. Dans les pays du tiers-monde, pays africains, ou pays du Sud en général, l'histoire et le contexte d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes. Beaucoup de peuples sont plutôt soumis à des dictatures politiques et économiques. Mais pour qu'un peuple se sorte de son anesthésie et de sa léthargie, il y a avant tout, un réveil et une forte prise de conscience collective. Puis, s'ensuivront des réformes efficaces pour trouver une indépendance politique, économique, industrielle. Le peuple doit être conscient qu'en réalité c'est lui qui détient le pouvoir. Chaque peuple, en union avec ses dirigeants, ne peut compter d'abord que sur lui-même et sur son potentiel. Être doté d'une même vision. Comme on le voit dans les pays occidentaux, la religion n'empêche pas le progrès, elle s'y accommode. Le réveil collectif part de haut en bas. Il concerne tout le monde. Tout le monde donne du sien, en commençant par soi-même. Alors, je n'attendrai plus que ce soit les autres qui viennent changer les choses d'un coup de baguette magique. Je commence à effectuer le travail dès maintenant à mon niveau. Un grand pays n'a pas seulement besoin d'un homme fort, mais il a besoin d'une institution forte. Pour avancer, je dois bien sûr croire en Dieu, pour qu'il me donne la force, mais je dois croire aussi en moi. Si le Seigneur m'a confié une tâche, une mission, c'est parce qu'il croit en moi et compte sur moi. Alors pourquoi ne le ferais-je pas en me donnant plus de détermination?
Se donner les moyens.
Anecdote. Eric est un jeune homme en Afrique qui, après ses études secondaires, s'est orienté en pétrochimie. Pour faire plaisir à son père et sous la pression de ce dernier, il a dû étudier avec acharnement et travailler dur pour obtenir son diplôme. Mais seulement, il ne s'est jamais senti à l'aise dans ce domaine et ne compte pas y faire carrière. Cependant, il a toujours eu une passion. La pâtisserie. Très jeune, il s'est intéressé à faire des petits pains, des crêpes, des gâteaux, des beignets, grâce aux recettes de sa mère. Son père, tout comme plusieurs de ses amis, lui demandait ce qu'il fabriquait dans la cuisine. Car ce n'est pas la place d'un garçon. Malgré les moqueries de ses amis, et surtout d'un en particulier qui avait trouvé un emploi dans une structure d'accessoires automobiles, il se faisait alors appeler le « vendeur de beignets ». Eric ne s'était pas découragé à concocter ses pâtisseries. Il fit quelques stages dans des boulangeries, a évolué dans divers restaurants. Et finit par trouver une place de chef pâtissier dans un des plus prestigieux hôtels étoilés de la ville. Mais, en 2020, lorsque frappe la crise sanitaire, beaucoup d'emplois sont à l'arrêt. Y compris celui de son cher ami qui se moquait de lui. La vente des voitures s'était arrêtée. Mais, l'emploi d'Eric n'était pas inquiété. Il continuait d'exercer dans son hôtel prestigieux. En marchant un jour au centre-ville, il rencontre son ami qui essayait en vain de cacher sa honte. Il expliquait à Eric qu'il était dans la disette depuis pas mal de temps et qu'il était au chômage. Il avait besoin d'argent. Eric lui répondit que ça ne sert à rien d'avoir honte. Tout le monde se cherche, ce sont des choses qui arrivent. Il lui donna de l'argent. mais il lui précisa que cet argent qu'il lui donne, c'est du « vendeur de beignets » dont il s'était moqué. Aujourd'hui, Eric est en Europe en stage avec les plus grands chefs pâtissiers du globe. Il n'a pas arrêté d'épater les siens en leur faisant savoir qu'en croyant à son potentiel, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves.
Beaucoup pensent encore qu'avoir la foi en Dieu, c'est attendre que les choses se feront toutes seules ou d'elles-mêmes, comme par magie. Elles croient à une sorte de « super pouvoir », comme dans des fictions. Bien sûr, le Seigneur accomplit des miracles, mais cela demande aussi notre concours, notre contribution. Dans les évangiles, Jésus accomplissait les miracles à ceux qui se déplaçaient, qui allaient vers lui physiquement et qui croyaient en lui. Aujourd'hui, je mets en œuvre tout ce qui est humainement possible pour accomplir ce dont j'ai envie. Je regarde autour de moi, et je me sers de l'intelligence et de la sagesse dont je dispose.
Fais ce que tu dois, advienne que pourra.
Merci d'avoir écouté cet épisode, extrait de son livre « Soutien spirituel ». À très bientôt.